Bonsoir Pierre. L'autorité palestinienne ferme les bureaux d'Al Jazeera en Cisjordanie. Al Jazeera accuse l'autorité palestinienne de suivre les actions, je cite, de l'occupation contre son personnel. Et puis El Aram Hebdo, le journal égyptien, reprend les déclarations de l'agence palestinienne qui accuse donc Al Jazeera de, je cite, de sédition et d'ingérence. C'est une décision ministérielle prise par le ministre de la Culture, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Communication palestinienne en réponse à l'assistance d'Al Jazeera de diffuser des reportages caractérisés par la désinformation. Al Jazeera répond que c'est une campagne d'intimidation contre ses journalistes. Le Hamas et le djihad islamiste ont publié des communiqués qui s'opposent à la fermeture du bureau d'Al Jazeera, considéré que la fermeture de ce bureau comme un acte répressif. Et puis Mustapha Barghouti, secrétaire général du Fatah, déplore la décision ministérielle palestinienne et demande que l'exécutif palestinien revienne sur cette décision au nom de la liberté de la presse. Un interview donné par Al Jazeera justement d'Adil Awad, infirmière à l'hôpital Al-Shifa de Gaza. C'était le meilleur hôpital de Gaza, déclare-t-elle. Elle a rêvé tout le temps de ses études d'infirmière de travailler et son rêve s'est transformé en cauchemar. Les titres de la presse arabe sont très mortifères la dernière semaine de décembre 2024 et ce premier jour de 2025. Assad El-Shabani, ministre des Affaires étrangères syrienne, nous rapporte la rencontre avec la délégation américaine. C'est une première. Des délégués américains sont arrivés à Damas la dernière semaine 2024 et le ministre des Affaires des étrangères mentionne « C'est la première fois que dans le cadre d'une guerre civile, la population est préservée et nous préservons toutes les composantes de la population syrienne. Plusieurs rencontres se sont déroulées avec les délégués américains. Le sort des minorités n'a fait qu'une petite part de nos échanges. Nous restons rationnels dans nos approches de la situation. Alors qu'on a libéré Damas, il faut se prémunir contre une guerre civile. Nous devons nous concentrer sur la réconciliation et le vivre ensemble. Nous voulons construire une société égalitaire et juste. Il y a un seul peuple syrien et non pas des juxtapositions de minorités. Nous formons une seule unité. Les Syriens ont fêté le Noël et le Nouvel An avec sapins, Père Noël et feux d'artifice. C'était la première fois depuis 50 ans que nous fêtions dans la joie une nouvelle année, déclarent les personnes rencontrées dans les rues de Damas. Une délégation d'experts d'Arabie Saoudite a déjà rencontré à Damas le nouveau ministre des Affaires étrangères syrien, Al-Shahar, qui est à Riyad depuis mercredi. Ses échanges sont très positifs et il a déclaré à l'Arabia que l'Arabie Saoudite jouerait un rôle majeur dans l'avenir, dans ses relations et dans la reconstruction avec la Syrie. Le ministre des Affaires étrangères syrien rappelle qu'il entretient des relations étroites avec ce pays où il est né, à Riyad, et où il a grandi jusqu'à l'âge de 7 ans. L'Iran ne jouera aucun rôle en Syrie, déclare le chef de la délégation américaine après sa première rencontre avec Al-Jolani, le chef de Hayat Tahrir al-Sham, HTS. Le chef de la délégation américaine a également déclaré que les États-Unis retiraient Al-Jolani de la liste des terroristes recherchés et Barbara Leaf, l'assistante du secrétaire d'État pour les affaires proche-orientales, a elle mentionné aux journalistes que la prime de 10 millions de dollars mise sur la tête de Jolani n'existe plus. Roger Casterne, qui est l'envoyé spécial pour les otages au Moyen-Orient, l'envoyé spécial américain, était membre de la délégation qui s'est rendue en Syrie. On continue avec Al-Arabiya. Un otage israélien a essayé de se suicider, otage détenu par le djihad islamique. Déclaration du porte-parole du djihad islamique Abu Ramza ce jeudi. Il accuse Netanyahou de vouloir reporter et de vouloir faire échouer les négociations pour la libération des otages. L'otage qui a voulu atteindre à sa vie, déclare-t-il, faisait partie du premier groupe, à devoir être libéré dans un plan à plusieurs étapes. Mais il ne donne ni de précision sur le contenu du deal, ni de précision sur les étapes. Nous continuons à traiter les otages comme Israël traite les prisonniers palestiniens. Abu Hamza ajoute que plusieurs otages ont tenté de se suicider en juillet quand on leur a appliqué les mêmes traitements appliqués aux prisonniers palestiniens. On poursuit avec le quotidien libanais L'Orient du Jour. Où en est-on après le cessez-le-feu du 27 novembre? Pour les uns, 298 violations de l'accord, alors que côté libanais, on affirme qu'il serait 800 actes de violation de l'accord. Le processus de retrait israélien est lent, écrit le journal libanais, et serait en partie dû au fait que les 68 000 déplacés du nord d'Israël ne souhaitent pas revenir car ils ne croient pas vraiment au cessez-le-feu. Le comité de surveillance attend, lui, l'élection d'un nouveau président le 9 janvier, d'un nouveau président libanais, le Liban n'ayant pas de président depuis 2 ans déjà, et l'élection d'un président serait un signal fort. Quel scénario est à prévoir après le 27 janvier ? 1. L'accord est appliqué et le président libanais est sur son siège, ce qui garantit une stabilité institutionnelle au Liban. 2. Reprise des affrontements après le 27 janvier entre Israël et le Liban, le scénario le pire. 3. Prolongation du cessez-le-feu au-delà des 60 jours pour arriver à un accord définitif. Al-Arabam Hebdo, le journal égyptien, nous rapporte les déclarations de Sam Morsi, ou plutôt les écrits de Sam Morsi dans son Twitter. C'est le capitaine égyptien du club de première ligue anglais Ipswich Town. Il avait déjà écrit après le 7 octobre une voix forte en faveur des Palestiniens, ne jamais se taire, libérer la Palestine. Dans le cadre de son tweet pour le nouvel an, il a réaffirmé son soutien aux militants du Hamas à Gaza. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.